Merci Olivier. Bonjour à tous. Nous poursuivons notre étude dans le livre de Josué. Et ce matin, nous lisons en Josué au chapitre 2. On est toujours dans cette phase préparatoire d'entrée en terre promise. Et je sollicite votre attention tout au long de cette prédication en vous demandant à chaque fois de noter lorsque la promesse du Seigneur se manifeste dans le commentaire. Et peut-être qu'à la fin, nous ferons une évaluation. On demandera à quelques-uns de nous dire combien de fois ils ont noté. Le chapitre 2 nous permet en effet de voir l'Éternel à l'œuvre, un Dieu agissant, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui réalise la promesse qu'il fait à son peuple. Au sujet des promesses, vous avez peut-être entendu un célèbre homme politique français déclarer ceci : les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Imaginez-vous un jeune marié interpeller son conjoint sur son infidélité, s'entendre répondre « Eh bien, je suis désolé, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. » Vous vous sentez alors trahi et votre confiance est détruite et c'est certainement la fin de l'histoire, ou en tout cas le début de la fin d'une telle relation. Depuis la crise Covid, jeunes et moins jeunes commandent des articles de Chine et d'ailleurs à travers le monde, sans se poser de questions. On est devant son ordinateur et on va sur un site et on commande des choses. Et on sait que le colis va arriver. Et qu'est-ce qui nous donne cette confiance ? Pendant que nous attendons l'arrivée du colis, nous recevons une lettre ou un courrier d'acceptation, de réception de votre paiement, de mise en route du colis, et vous avez un code, soit un code barre, soit en tout cas des indications de la situation de votre colis. Et qu'est-ce que cela fait ? Cela vous met en confiance. Vous vous dites, ah non, mon colis va arriver, et je suis tranquille. Autrement dit, lorsque la promesse est tenue, on est dans une paix agréable. Au chapitre 1er du livre de Josué, le Seigneur confirme la promesse faite à Abraham en Genèse 12, versets 1 et 2. Il confirme ses propos à Moïse et il enjoint Josué de rester dans la même lignée que ses prédécesseurs. Je vous invite maintenant à lire ce chapitre 2 de Josué. Josué, chapitre 2. Prions avant cette lecture. Dieu notre Père, nous te bénissons pour ce temps que tu nous donnes. Nous voulons être instruits par toi. Conduis-nous, Seigneur, dans notre faiblesse et ouvre-nous les oreilles de l'Esprit. Que l'Esprit Saint se saisisse de nous afin que nous puissions entendre, mais aussi décider de vivre selon toi, de laisser agir dans notre vie pleinement pour ta seule et unique gloire en Jésus. Amen. Josué, chapitre 2. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant « Allez explorer le pays, en particulier Jéricho. » Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. En effet, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les deux hommes et les cacha. Puis elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. » Et au moment où l'on allait fermer les portes, on allait fermer la porte à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. Elle avait fait monter les espions sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle y avait arrangées. Ces hommes les poursuivirent sur le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'enferma la porte après leur départ. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. » La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer, des roseaux, et comment vous avez traité les deux rois, les Amoréens, de l'autre côté du Jourdain. Sion et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, « Nous le jurons sur notre propre vie, et si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « allez du côté de la montagne, sinon vos poursuivants risqueraient de vous rencontrer. » Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient rentrés. Après cela, vous poursuivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous nous acquitterons du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et rassemble avec toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux passe par la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. En revanche, si l'on porte la main contre l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, quel qu'il soit, son sang retombera sur notre tête. Si par ailleurs tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit comme vous l'avez dit. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Puis elle attacha le cordon rouge à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient soient rentrés. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent dans toute la région, mais sans les trouver. Les deux hommes redescendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent vers Josué, fils de Noun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils lui dirent, « C'est certain, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Pour Josué et le peuple, le Seigneur ne fait pas descendre ses anges pour conquérir le territoire. C'est par la foi de Josué et du peuple, en obéissance aux ordres de l'Éternel, que la promesse de l'Éternel se transforme en réalisation. Et c'est pour cette raison que Josué se prépare. Son expérience des expéditions l'amène à concevoir un projet de marche avant tout engagement. Josué dépêche 2 espions pour du renseignement. Ils ont pour mission d'explorer le pays, en particulier Jéricho. En principe, les espions sont des agents semblables à des avions furtifs. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Un avion furtif, quand il passe, lorsque vous entendez le son, ben, il est déjà très très loin. Curieusement, les espions que Josué envoie ne sont pas très doués. À peine sont-ils arrivés qu'ils sont déjà remarqués. Le roi est déjà au courant qu'ils sont dans la ville. N'est-ce pas un risque que Josué a pris là, de choisir des personnes peut-être peu capables? N'est-il pas en train de menacer la promesse de réalisation de l'Éternel? Cependant, Josué ne dispose d'aucun moyen de savoir si l'Éternel a prévu un miracle. La seule chose dont dispose Josué, c'est le commandement que l'Éternel lui a donné. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Aujourd'hui, nous entendons et nous voyons de nombreux chrétiens dans l'attente du miracle. Mais le miracle, c'est de la compétence de l'Éternel. Cela ne dépend pas de toi. Pour l'Église, nous devons prévoir des choses. Nous ne pouvons pas rester toute la semaine les bras croisés et puis arriver ici le dimanche pensant que la table du Seigneur sera prête. Certains chrétiens parfois critiquent le fait que l'on rédige sa prédication comme c'est fait ce matin, parce qu'ils estiment que l'Éternel parle en direct. Il suffit de monter sur la chaire et tout se fera tout seul. Peut-être bien. Mais le Seigneur, dans ce texte, commande à Josué de méditer la parole. Chapitre 1, verset 8. Pour réussir dans ses entreprises, Josué doit méditer la parole. Et comment obéir alors à ce commandement quand on est paresseux, quand on compte sur les miracles à tous les coups? Josué est un homme de foi, mais il est aussi habité de la sagesse de l'Éternel. Et il envoie des espions parce qu'il faut établir une stratégie pour entrer dans ce pays, sachant que la promesse de la conquérir est acquise. Les espions envoyés par Josué, certes, manquent de discrétion. Et leur arrivée dans la ville est connue. Le roi envoie des fonctionnaires chez Rahab pour demander de livrer ses hommes. Rahab reconnaît avoir eu la visite de ces hommes. Toutefois, elle explique qu'à la tombée de la nuit, les deux hommes ont quitté les lieux. Rahab va même plus loin en conseillant aux fonctionnaires du roi de se dépêcher d'aller à leur poursuite pour les rattraper. Cette entreprise de conquête de la terre promise commence dans des complications. Des espions repérés, le mensonge qui rentre en ligne de compte, le Dieu Tout-Puissant opère-t-il à travers les mensonges? Doit-il se servir des mensonges pour réaliser sa promesse? Considérant le contexte, Rahab est une femme cananéenne qui n'a pas la même approche du mensonge qu'un Israélite qui sait qu'il sert le Dieu saint. À cette époque, l'hospitalité dans cette région est quelque chose de sacré, si bien que un mensonge comme celui d'Arabe semble nettement moins grave que de manquer d'hospitalité. Troisièmement, Rahab est en position de faiblesse. Et dans l'Ancien Testament, nous retrouvons une attitude semblable chez Rachel, l'épouse de Jacob. En Genèse 31, versets 32 à 35, Rachel va dissimuler les talismans que cherche son père. Et elle va mentir en disant à son père qu'elle ne peut pas se lever parce qu'elle est dans sa période. Ancien Testament tente à comprendre l'attitude de celui qui est faible pour lui venir en aide. Toutefois, bibliquement, ces comportements ne peuvent être considérés comme un bien moral. Mais ils montrent la fragilité de l'humain et les faiblesses qu'il habite. Dans cette faiblesse, la miséricorde du Seigneur supplée et agit pour le bien de ceux qui lui font confiance. Ce qui suit nous aide à comprendre pourquoi Ahab use de mensonges. Un mensonge, certes, qu'il faut dénoncer. En effet, Ahab a pris une décision dans sa vie et elle se montre fidèle face à ce choix de vie nouvelle. Elle traite les espions de Josué avec fidélité. Non pas une fidélité aux espions, mais une fidélité à l'Éternel, le Dieu d'Israël, qu'elle ne connaît pas encore assez bien, mais qu'elle a déjà adopté comme le sien. L'attitude de Rahab n'est certes pas exemplaire, mais on peut la comprendre, eu égard à la suite. En effet, peut-on attendre d'un nouveau converti qu'il agisse en tout parfaitement, alors qu'il découvre seulement qui est l'Éternel? L'Éternel, notre Dieu, est beaucoup moins pointilleux avec nous. Même après de nombreuses années dans la foi, on arrive encore à en trouver en nous des comportements, des actes contraires aux valeurs que nous déclamons. Il nous faut être patient, il nous faut être indulgent et éviter de condamner l'autre au bûcher. Et ce n'est pas une raison pour ne pas dénoncer le mal. Chaque jour, nous sommes appelés à délaisser le péché. Et Christ nous en rend capables. Il nous rend capables de dire la vérité, parfois au prix fort. Mais une fois que nous avons dit la vérité, nous sommes libérés. Et cela participe au bien de tous autour de nous. Pour l'instant, Rahab fait une expérience boitillante, mais sincère. Avant l'arrivée des espions, l'Éternel avait déjà préparé le terrain. Et malgré les maladresses des uns et des autres, l'œuvre du Seigneur se poursuit. Lorsque l'on lit jusqu'au verset 7, on reste dans le questionnement. Qu'est-ce qui pousse cette Cananéenne à ce type de comportement ? Des personnes qu'elle ne connaît pas arrivent chez elle et la voilà qui prend des risques inconsidérés. Elle les cache, elle ment aux fonctionnaires du roi. Et elle les dirige sur une fausse piste. Et le verset 9 vient clarifier tout cela. Rahab parle de choses bizarres. On ne s'attend pas à entendre de telles paroles de la bouche d'une Cananéenne. Je cite, « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. » Et Rahab déroule toute l'histoire du salut, depuis la sortie d'Égypte jusque le séjour dans les plaines de Moab. Rahab établit les hauts faits de l'Éternel. L'Éternel a asséché la mer des roseaux. L'Éternel a permis la destruction des rois qui se sont opposés à sa volonté. Sion et Og sont voués à l'interdit. Rahab met ainsi en lumière la puissance de l'Éternel. Qui peut résister devant une telle puissance? Et cette puissance va jusqu'à susciter chez les habitants de Jéricho une peur bleue. Rahab dit ceci au verset 11, « Nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. » Nous retrouvons ainsi une confirmation de la promesse du Seigneur à Josué. Le discours de Rahab prouve qu'elle a fait un choix sur la base des récits qui leur sont parvenus. Rahab n'a pas été enseignée par les espions qui sont à peine arrivés chez elle. Elle a appris de ce qu'on racontait des œuvres de l'Éternel et elle a cru. Et par sa foi, désormais, Rahab fait partie d'Israël. Elle est sauvée de la mort qui attend ceux qui résistent à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Rahab se comporte en personne bien informée des projets de l'Éternel. Et elle choisit son camp. Elle pousse les espions à lui promettre la vie sauve lorsque le pays sera conquis. Mais qu'en sait-elle du calendrier de l'Éternel? Que sait-elle de ce que le Seigneur a prévu? Peu importe ce qui compte et ce qu'elle croit, c'est que le Seigneur vient bientôt pour juger ce peuple rebelle. C'est le moment du choix. Rahab accepte le Dieu d'Israël comme le Dieu du ciel et de la terre et comme son Dieu. Et elle pense à sa famille. À l'époque, la pratique pour sceller une parole était le serment. Et Rahab demande une parole ferme et solide. Elle a été généreuse à l'égard des espions. Elle souhaite un retour de leur part. Verset 12. « Donnez-moi l'assurance par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté. » Rahab veut se prémunir de la trahison des hommes si courante. C'est pour cela que ces hommes doivent faire un serment. Et il déclare, verset 14, « Nous le jurons sur notre propre vie. » Mais que vaut ce serment? Les espions sont-ils légitimes pour prononcer de telles paroles? Lorsque nous consultons le texte biblique, il peut nous laisser croire que les espions seraient en opposition avec la parole de Dieu. En Deutéronome 7, versets 23 et 24, en effet, le texte déclare, verset 23, « L'Éternel, ton Dieu, te livrera ces nations et il les mettra complètement en déroute jusqu'à leur destruction. » Exode 12, 38, parle des peuples étrangers qui s'opposent au peuple de Dieu. Apparemment, donc, tous les peuples ne devraient pas être d'office détruits. En effet, lorsqu'on lit en Josué 11, les versets 18 à 19, nous lisons ceci, « La guerre que Josué mena contre tous ses rois fut longue, fut de longue durée. Aucune ville ne fit la paix avec les Israélites, à l'exception de Gabaon, qui était habité par les Héviens. » Ce qui laisse donc penser que le génocide dont on parle, souvent au sujet de l'entrée d'Israël en Canaan, devrait être relu sous un autre prisme. Déjà en Exode 12, verset 38, je cite, « Une grande foule de gens de toutes sortes montèrent avec eux. Quand Israël quitte l'Égypte, ce n'est pas que les 12 tribus, c'est les 12 tribus avec une grande foule de gens qui les accompagnent. » Autrement dit, le Seigneur n'est pas un meurtrier pour vouloir la mort de tous les hommes. Bien au contraire. Les espions, donc, lorsqu'ils sont dans cette position de serment, sont-ils au courant de cette information? Le texte ne nous le dit pas. Ce qui est factuel, c'est qu'il n'est pas incongru de penser que Rahab puisse faire partie de ce peuple, bien que cananéenne. Le peuple de Dieu a une mission. Cette mission, c'est de faire connaître le Dieu d'Israël comme le seul vrai Dieu. Et lorsque cette mission est accomplie, que chercher d'autre? Auprès de Rahab, c'est acquis, malgré sa nationalité, malgré l'absence de lien de sang avec Abraham. Elle et sa famille sont intégrées au peuple de Dieu parce qu'elle a reconnu l'Éternel, le Dieu d'Israël comme le sien. Elle fait partie du peuple, tout comme ses espions. À la seule différence que les espions sont descendants d'Abraham, Rahab, en plaçant sa confiance en l'Éternel, elle sort de facto du peuple cananéen pour entrer dans l'alliance au Dieu d'Israël. La Bible nous dit qu'Abraham est le père de la foi, n'est-ce pas? La descendance promise à Abraham est celle de ceux qui ont la foi d'Abraham. Le témoignage de Rahab et de ce qu'elle dit et de ce qu'en dit la parole est poignant. Il est possible déjà à cette époque-là de faire partie d'Israël sans être descendant biologique d'Abraham. Et cet épisode montre, s'il le fallait, une fois encore, la préoccupation du Seigneur. C'est de sauver les hommes, quelle que soit leur origine. C'est pour cela que dans l'Église, il n'est pas acceptable d'avoir des attitudes discriminatoires les uns vis-à-vis des autres. Pourquoi ? Parce que nous étions tous perdus. Et le Seigneur nous a sauvés. Comment pouvons-nous donc discriminer ? Comment regarder les autres comme étrangers ? Alors que le Seigneur les voit comme ses enfants. Christ est celui qui accueille. Il accueille toute personne qui vient à lui. Rahab, la Cananéenne, est acceptée dans le peuple d'Israël. Nous aussi en Église, sachons accueillir tous ceux qui viennent en recherche du Christ. Je ne parle pas de l'accueil à la porte. Je parle de l'accueil de nos cœurs ouverts à recevoir ce que le Seigneur nous donne. Le Seigneur n'a cure de la nationalité. Le Seigneur n'a cure de la couleur de la peau. Ce qui compte, c'est le salut. Le salut des hommes. Voilà le regard que nous devrions porter lorsque nous disons appartenir au Seigneur. Les espions font ce serment de tenir parole et de préserver la vie des membres de la famille de Rahab à condition. Premièrement, elles ne devraient pas rendre publique leur visite, ni l'objet de cette visite. L'objet de cette visite, c'est la conquête de la ville de Jéricho. Et nous voulons conclure cette partie en disant que les espions ne vont pas à l'encontre du texte biblique. Ils sont dans la pleine volonté de Dieu. L'Éternel veut sauver la vie des hommes, de tout humain, celle de Rahab et celle des membres de sa famille. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel. Cela devient possible grâce à la foi. La foi de Rahab la sort d'un peuple rebelle pour la faire entrer dans l'alliance de l'Éternel. À présent que le serment est fait, est venu le moment de s'acquitter. Les villes de cette époque étaient faites d'une muraille qui l'encerclait. La nuit tombée, on fermait les portes de la ville et il devenait impossible pour quiconque de sortir de la ville sans être repéré. Comment donc quitter la ville à présent que les portes sont fermées et que les espions sont encore dans la ville? La maison de Rahab a pour mur externe la muraille. Il s'y trouve une fenêtre et Rahab se sert d'une corde pour exfiltrer les espions. Et sa bienveillance va jusqu'à leur donner des conseils sur le trajet à emprunter. Rahab sait que les poursuivants auront besoin de 3 jours pour chercher et revenir. Et pendant ce temps, les espions seront cachés dans les grottes du côté de la montagne, le côté opposé au Jourdain. Après 3 jours, le calme revient dans la cité et ses environs, et les espions peuvent quitter la cité en toute quiétude. Avant de s'en aller, quelques précisions sont utiles. Les espions précisent les modalités de leur engagement envers Rahab. Ils lui disent comment elle devrait se comporter. Il faut un cordon de fil rouge à la fenêtre sur la muraille. Elle-même et les membres de sa famille devront rester dans la même maison, dans cette maison de Rahab. Elle est aussi invitée à garder le silence sur cette visite. Et cette visite se conclut par « Qu'il en soit ainsi », dit Rahab au verset 21. Le Seigneur confirme une fois encore que sa promesse est en cours. Et voilà donc les espions de retour vers Josué. Et cela fait sourire quand on lit le texte. Dans ma Bible, le titre de cette partie est « Compte rendu des espions ». Alors quand on pense effectivement qu'il devait rendre, il devait faire un compte rendu à Josué, on se demande, mais de quoi vont-ils parler? Qu'est-ce qu'ils ont réalisé? On ne sait pas. C'est le Seigneur dans sa bonté qui agit à travers cette femme cananéenne, qui leur indique la voie à suivre. Allez du côté de la montagne, cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce que soient rentrés les fonctionnaires du roi. Après cela, vous pourrez poursuivre votre route. Lorsque l'on regarde des films d'espionnage, les espions sont bien plus proactifs, entreprenants, imaginatifs, créatifs, ingénieux. Ces espions ici sont plutôt passifs, vivant les événements, subissant le cours du sort, et ils vont faire un rapport. J'avoue que ça m'a fait rire. Parce qu'en réalité, le rapport que les espions vont faire, elle est la confession de foi de Rahab. C'est certain, disent-ils, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Quel rapport exhaustif, n'est-ce pas? Très détaillé. Cela nous montre une fois de plus que c'est l'Éternel, le seul vrai Dieu, celui qui agit, celui qui dit et sa parole se réalise. En effet, en conclusion, la puissance de l'Éternel se manifeste dans la faiblesse. Qui est Rahab? Qui sont les espions? Pas grand-chose. Pourtant, c'est à travers ces faiblesses que le Seigneur agit. Peut-être que dans ta vie, tu attends de voir le Seigneur venir sur un cheval blanc pour te sauver d'une situation difficile et peut-être complexe dans laquelle tu te trouves. C'est très souvent à bas bruit dans nos faiblesses que la puissance du Seigneur se révèle. Devant l'Éternel, il n'est pas besoin de faire le fier. C'est dans l'humilité et la confiance en lui que tu verras ses promesses pour ta vie s'accomplir en Christ. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Sois humble. L'Éternel est ton bouclier et ton salut. L'Éternel est le seul vrai Dieu. Accueille celui qui confesse l'Éternel comme seul vrai Dieu. Dans l'épreuve, l'Éternel déclare ceci à Josué, « Fortifie-toi, aie du courage en te conformant à la parole de l'Éternel. Ne t'écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. » Amen. Voulons prier. Dieu notre Père, merci pour ta parole encore ce matin qui nous interpelle, qui nous rappelle que tu veux sauver l'homme et que ta parole se réalise malgré nos faiblesses. Donne-nous d'être humbles. Donne-nous de nous soumettre à ta parole. Donne-nous de la saisir comme un trésor pour notre vie. À la gloire du Christ, notre Sauveur. Amen.